Jésus a prononcé beaucoup de paroles énigmatiques. L'une d'entre elles se trouve dans le premier chapitre de Jean, lorsqu'il dit « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Par ce discours du ciel ouvert avec des anges qui font l'aller et venue, Jésus fait allusion à une fameuse vision de Jacob. Alors tout jeune, le futur père de la nation d'Israël s'enfuyait à toutes jambes pour échapper à son frère Ésaü qui voulait lui faire la peau. C'est à l'occasion de sa première nuit à la belle étoile qu'il eut un rêve par lequel il a compris que l'Éternel n'avait pas perdu le contact avec lui. En effet, Jacob pensait alors qu'en quittant la maison, il laissait derrière lui le Dieu de ses pères par la même occasion. Il faut savoir qu'à cette époque, tous les peuples croyaient en des divinités territoriales, c'est-à-dire liées uniquement à leur pays. Abraham et son fils Isaac avaient dû apprendre que l'Éternel était le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, et qu'il était omniprésent, c'est-à-dire partout à la fois. Jacob devra lui aussi découvrir cette vérité. Sa première leçon est cette vision. Je cite le passage. « Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. » Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. » Fin de citation. Jésus dit que les anges vont monter et descendre sur lui, le Fils de l'homme. Apparemment, alors qu'il demeurait sur terre, ces êtres de lumière ont joué un rôle intermédiaire entre le Père céleste, qui est esprit, et Jésus-Christ, homme. Ils sont mentionnés lors de la tentation du Christ, dans le désert, et aussi dans le jardin de Gethsémané, lorsque Jésus-Christ agonise juste avant d'aller à la croix. Jésus est lui-même l'escalier du rêve de Jacob, qui rend possible la communion entre le ciel et la terre. Plus loin dans l'évangile de Jean, le Seigneur va dire « Le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Fin de citation. Et c'est ainsi que se termine ce premier chapitre de Jean, qui est plutôt long, mais extrêmement important. Le nombre de titres employés à propos de Jésus est impressionnant. Divers témoins nous le présentent. D'abord, Jean-Baptiste affirme qu'il est le Fils et l'Agneau de Dieu. André l'appelle le Messie et Philippe déclare qu'il est le roi d'Israël. Mais Jésus préfère se désigner par le titre énigmatique de Fils de l'homme. Par cette expression, il souligne son humanité, sa souffrance et son œuvre en tant qu'homme parfait et second Adam. Nous voici maintenant arrivés au second chapitre de cet évangile, dans lequel a lieu le premier miracle du Christ. Celui-ci fut accompli en toute intimité, loin des foules. Seuls les premiers disciples, quelques serviteurs et la mère de Jésus y ont assisté. Ce récit indique que le Seigneur, qui avait alors 30 ans révolus, n'avait auparavant jamais accompli de prodiges, en particulier lorsqu'il grandissait à Nazareth. Ces miracles font partie intégrante de son ministère en tant qu'agneau et fils de Dieu. Ils ont pour but d'attirer l'attention non sur la puissance déployée ou l'événement étrange en lui-même, mais sur sa signification spirituelle en rapport avec la personne du Christ. Ce sont des signes qui démontrent qu'il est véritablement le Fils de Dieu et qui rendent son enseignement percutant. Ce ne sont pas des actes de divertissement pour amuser la galerie. Jésus ne voulait pas passer pour un thaumaturge, un magicien ou un yogi quelconque. Il était le Fils unique de Dieu, venu en chair et en os pour révéler le Père. Il avait quitté l'éternité et sa gloire céleste pour descendre ici-bas et le voilà invité à une célébration de mariage. Je commence à lire. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Verset 1 à 2. Cette fois-ci encore, l'auteur insère ses noces dans l'espace-temps. Nous sommes à la fin février ou au début mars de l'an 27 ou 28 de notre ère. Tout au long du récit, Jean va continuer à préciser les divers lieux où va se rendre Jésus avec ses disciples. Cana en Galilée, dont on ne connaît pas la localisation exacte, était proche de Nazareth et à environ 2 jours de marche de Béthanie, une bourgade se trouvant aux environs de la ville de Jéricho. Jésus-Christ commence son ministère d'enseignement ici-bas à l'occasion d'un mariage. Il le conclura de façon similaire à la fin des temps parce que les Écritures appellent les noces de l'agneau. Je continue le texte. « Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » Verset 3. Dans son évangile, Jean ne mentionne jamais ni son nom personnel, ni celui de la mère du Christ. Les noces orientales duraient 7 jours. Le festin commençait dès que l'époux avait amené sa future épouse dans sa maison ou dans celle de ses parents, mais avant qu'il ne l'ait emmenée dans la chambre nuptiale. Il semble évident que cette famille était pauvre, puisqu'ils ont manqué de l'essentiel à un mariage. Le vin, qui réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. C'est ce que dit un des psaumes de l'Ancien Testament. Je continue le texte. « Femme, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 4. Le mot « femme » utilisé par Jésus pour désigner sa mère peut nous sembler étrange dans notre culture du XXIe siècle. Mais il s'agit là en fait d'une expression de respect et d'affection. Par contre, l'expression suivante, « est-ce toi ou moi que cette affaire concerne » marque bien une différence de point de vue entre deux. Jésus prend ses distances par rapport à Marie et à son autorité. Est-ce que la mère de Jésus voulait voir son fils faire un miracle afin de prouver qu'il était bien d'origine divine et que sa conception fut miraculeuse? On ne sait pas. En fait, c'est la résurrection qui sera la démonstration suprême que le Christ était bien celui qu'il disait être. Le Fils éternel de Dieu est la deuxième personne de la Trinité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Marie se mêle de ce qui ne la regarde pas. Elle va devoir apprendre une leçon pénible, à savoir que Jésus était engagé à faire la volonté de Dieu, le Père, et que l'heure où il se manifesterait ne pouvait être décidée que par lui. À 5 reprises dans l'évangile de Jean, Jésus dira « Mon heure n'est pas encore venue » et 3 fois il dira « L'heure est venue. » Je continue le texte. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Verset 5. Ça, c'est un bon conseil. La réponse de Marie révèle sa soumission envers son fils. Bien qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle eut confiance en lui. Je continue. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Verset 611. Cette eau était destinée aux rites de purification juifs avant et après les repas. Le marié a dû être drôlement surpris d'apprendre que du bon vin était apparu comme ça de nulle part. Mais où est la mariée? Est-elle jolie? Et comment est-elle habillée? Dans nos noces du XXIe siècle, pour ceux qui se marient encore, c'est exclusivement elle qui compte. Quand le marié entre à l'église, personne ne prête attention à lui. Seule sa mère lui sourit car elle est fière de son fils. Mais c'est tout. Par contre, quand arrive la mariée, alors là, tout le monde se lève et braque ses regards sur elle. Dans ce récit, elle est absente parce que le sujet de ses noces est le miracle de la transformation de l'eau en vin et pas la robe de la mariée. Dans l'histoire d'Israël, le premier prodige que fit Moïse fut de tourner toute l'eau du pays d'Égypte en sang. Ici, l'eau destinée au lavage rituel juif devient du vin vieux excellent. Quelle différence! Le sens de ce miracle est que la grâce du christianisme est supérieure à la loi du judaïsme. Ce premier prodige et signe de l'évangile de Jean place sous les feux des projecteurs la personne de Jésus en tant que le Créateur tout-puissant. Quand on y réfléchit, c'est tous les ans que Dieu change l'eau en vin par les procédés de fermentation. Ici, ce fut accompli de façon instantanée. Ces 5 à 600 litres de vin étaient son cadeau au jeune couple. Ce prodige mettait en avant le genre de ministère transformateur que Jésus allait exercer. Les disciples crurent en lui à cette occasion. Mais entre nous soit dit, ils n'ont aucun mérite. Ils ne pouvaient que constater que le Christ avait un pouvoir surnaturel. Je continue. Après cela, Jésus descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Versets 12 et 13. La ville de Capernaüm devint le port d'attache de Jésus. À partir de ce moment, il était complètement séparé de sa famille d'origine et de sa ville natale, Nazareth. Il devint un rabbin itinérant, comme il y en avait ici et là, à cette époque. La Pâque juive était devenue une fête religieuse, un simple rituel obligatoire que les gens accomplissaient. Elle avait perdu une bonne partie de sa signification originelle. Lorsqu'elle avait été instituée, elle s'appelait la Pâque de l'Éternel. C'était alors une très grande célébration de la grâce que Dieu avait manifestée en délivrant son peuple de la servitude qu'il avait connue en Égypte. Cette libération physique de l'esclavage en annonçait une autre, spirituelle celle-là. L'affranchissement du mal et le pardon des fautes. Je continue le texte. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Verset 14. La vente d'animaux se faisait autour du temple proprement dit, dans le parvis réservé aux non-juifs. L'argent romain, qui portait l'effigie de César et donc l'empreinte de l'idolâtrie, était échangé contre de l'argent cachère, pur, en théorie du moins, car en réalité, l'argent propre n'existe pas. Ce commerce était pratique. Il avait été instauré pour rendre service aux pèlerins de passage à Jérusalem. Mais il y avait de plus en plus d'abus et ces activités devinrent une des principales ressources des religieux juifs de la ville sainte. Aujourd'hui, c'est dans le même esprit qu'on vend des médaillons et des statues dans certains lieux de culte. La corruption avait remplacé l'adoration. On y prélevait des taux d'usure qui dépassent ceux de la pègre, c'est tout dire. Je continue. Alors, il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Versets 15 à 17. Le Seigneur était sans conteste un homme qui jouissait d'une grande force physique. Les tableaux qui le représentent quelque peu anémiques ont été faits par des peintres qui n'ont pas bien lu l'Évangile. Il est ému d'une sainte colère à cause de tous les abus qui régnaient dans ce lieu saint. Non seulement ça sentait le fric partout, mais la raison d'être des sacrifices était pratiquement occultée. Ce n'est pas tout. Le parvis, le lieu où se déroulait ce trafic, était d'une part devenu un raccourci d'un bout à l'autre de la ville, et d'autre part empiétait sur le domaine réservé aux non-juifs, ce qui les empêchait de venir adorer Dieu. Il y avait vraiment de quoi se fâcher. Les disciples de Jésus firent le lien entre son action purificatrice, musclée, et le passage d'un psaume de l'Ancien Testament qui a été cité. Je continue. Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?»« Défaites ce sanctuaire, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. » Versets 18 à 19. Cette première purification du temple par Jésus a pris les gens par surprise. Bien sûr, tout se raffut, ça fait des ordres et c'est pas bon pour le business. Alors, parce que Jésus ose défier l'ordre existant, on s'indigne et lui demande des comptes. Mais il leur répond de façon voilée et prononce ce qui pourrait être considéré comme une brève parabole. Comme souvent, sa parole a un double sens et n'est pas comprise. Il avait recours aux énigmes afin de confondre ses ennemis. Il désirait que ceux-ci réfléchissent à ce qu'il disait afin d'en comprendre la signification. Dans sa réponse, Jésus parle du sanctuaire de son corps et non de la bâtisse de pierre de taille. Pourtant, lors de son procès, un des principaux chefs d'accusation contre lui saura qu'il aurait dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Or, il n'a jamais parlé de détruire et de rebâtir le temple de Dieu, mais de défaire ce sanctuaire en parlant de son corps et de le relever. Or, ce dernier mot signifie ailleurs « réveiller d'entre les morts ». Cependant, en condamnant le Christ, les autorités religieuses accomplirent sa parole sans avoir conscience de le faire et détruisirent le Fils Temple. Du point de vue de Jésus et donc de Dieu, si les Juifs refusent de comprendre, c'est leur problème. Ils avaient les Écritures à leur disposition et auraient dû saisir le fait que leur Messie était là devant eux en chair et en os. Je continue. « Comment ? » répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le sanctuaire et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. » Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Versets 20 à 22. La reconstruction du temple dit d'Hérode avait commencé en l'an 20 avant Jésus-Christ. Les travaux ne cesseront vraiment qu'en l'an 63, 7 ans avant sa destruction totale par les Romains. Comme quoi, les œuvres humaines ont une fâcheuse tendance à la précarité, à être éphémères. Même les disciples de Jésus ne comprirent pas l'énigme prononcée par leur maître à ce moment-là, parce qu'ils ne concevaient absolument pas la nécessité de sa mort. En dernière analyse, force est de constater que personne n'a réellement compris l'objectif ultime de la loi de Moïse, ni les chefs religieux, juifs, pourtant spécialistes de la loi, ni les apôtres qui suivirent le Christ pendant 3 ans, jour et nuit. Aucun de ces groupes n'a saisi la pensée du Seigneur qui avait donné la loi afin d'annoncer et de préparer Israël à la venue de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a fallu que la lumière de la résurrection vienne éclairer les disciples pour que, Eureka, le jour se fasse dans leur esprit et dans leur cœur, pour qu'ils comprennent la portée des paroles de Jésus concernant le sanctuaire de son corps. Je finis le chapitre 2. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Versets 23-25. Cette foi que les gens avaient en Jésus-Christ à cause de ses miracles était circonstancielle. Elle n'avait aucun fondement solide. Les badauds étaient simplement ébahis et reconnaissaient que Jésus était doté d'un certain pouvoir et capable de guérir. Mais de là à le considérer comme le Messie qui devait venir et le Sauveur, il y a un immense pas que peu acceptèrent de franchir. D'ailleurs, Jésus ne se faisait aucune illusion sur ceux qu'il admirait. L'excitation du moment, ou une foi fondée sur des signes, n'a vraiment aucune valeur. En tant que Dieu, le Seigneur voyait au-delà des apparences, jusque dans le cœur de l'homme. Il savait bien que ces Juifs étaient des girouettes, et lorsque le moment viendrait pour eux de prendre son parti contre les autorités religieuses qui comploteront son assassinat, il n'y aurait plus personne. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui le suivirent, dans un premier temps, le délaissèrent par la suite parce qu'il n'assumait pas le rôle d'un leader politique. C'est là aussi une des raisons pour lesquelles Judas l'a trahi. Même aujourd'hui, bon nombre de nos contemporains croient à certains des faits historiques qui entourent ce personnage charismatique que fut Jésus, mais cela ne va guère plus loin. Il ne s'agit donc pas d'une foi qui sauve et qui donne accès à la vie éternelle. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.